Il y a quelques décennies, les collèges et universités offraient des cours où l'on apprenait à dessiner d'après un modèle vivant, ce qui développait d'une part un sens aigu d'observation. Cela permettait aussi à l'œil, à la main et au cerveau d'acquérir une habileté pendant les 3 ou 4 heures d'atelier à capter sous tous les angles le corps qui pose avec ou sans accessoires. Et au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on peut visiter jusqu'au 26 mai le modèle dans l'atelier Montréal 1880-1950. Et je reçois le conservateur Jacques Desrochers. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a conduit vers cette spécialisation de l'art québécois et canadien d'avant 1945? Est-ce que c'était votre sujet de maîtrise ou votre thèse de doctorat?
Moi, j'ai plutôt commencé mes études en archéologie classique. Alors, j'ai une formation hybride. L'histoire de l'art a suivi. C'est mes premières amours qui ont mené par la suite à à me diriger vers ce qui remplaçait l'École des Beaux-Arts à l'Université de Montréal, des cours d'atelier pour artistes. Et puis, dans ce contexte-là, moi, je me suis surtout intéressé finalement à... J'ai fait de l'installation et je me suis intéressé en particulier à la perte d'image et à l'histoire comme matériau. Puis, j'ai eu une pratique comme artiste. J'ai pratiqué le modèle vivant, un peu, pas tant que ça. Mais c'est pas ça de toute façon qui m'a mené au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il s'est passé bien des choses entre-temps. Et comme je vous dis, ben, je suis retourné à mes premières amours en histoire de l'art. Mais le sujet de l'exposition en particulier, ben, ça c'est directement l'histoire même de l'institution où je travaille depuis déjà 17 ans. C'est le fait que, en fait, dès sa fondation en 1860, ce qu'on appelait alors l'Art Association va vouloir créer une école qui sera par contre réellement ouverte qu'en 1880, le début donc du corpus qui concerne l'exposition dont le musée présente une sélection de nos acquisitions récentes.
Justement, c'est Robert Harris qui dirigea la première école d'art en 1983, l'ancêtre que vous avez mentionné, qui était le Art Association of Montreal. Est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà des modèles nus?
Le modèle vivant, ça va prendre un certain temps. En fait, drapé ou nu, ça va prendre un certain temps parce que c'est sous Brimner, plutôt, son successeur en 86. Harris va être là seulement 3 ans, bien que c'est lui qui va amener, dans le cadre des cours supérieurs, une formation inspirée des académies françaises. Donc, Brimner, qui le suit, va lui introduire, avec l'aide de la Royal Canadian Academy, avec une subvention de la Royal Canadian Academy, les premiers cours de modèle vivant le soir. Mais ce qui est assez intéressant, ce que souligne l'exposition, c'est que ces cours du soir-là ne seront accessibles qu'aux hommes. Éminemment particulier aussi, c'est que dans les cours de Brimner, l'essentiel des étudiants seront des étudiantes. Alors les femmes n'avaient pas accès au modèle vivant nu.
Ça, est-ce que c'est à partir de 1912 que les femmes ont eu accès?
En fait, on n'a pas de date précise parce que les archives de l'Art Association, de l'école de l'Art Association, ont disparu dans un incendie. Et vous me donnez la date de 1912, mais en fait, c'est probablement à cause de la sélection de dessins qu'on présente dans l'exposition. De fait, il y a 4 dessins qui sont présentés, qui témoignent de la formation académique à l'époque. 4 dessins, dont un est par un homme, Clarence Gagnon, et les 3 autres par des femmes. Ce sont 4 dessins de la vingtaine d'ouvrages qu'on a pu conserver de nos archives et qui montrent les prix gagnés par les étudiants, des prix d'ailleurs qui vont être institués par William Brimner à la fin du 19e siècle. Donc on n'a pas de date précise, mais effectivement dans ces dessins-là, on voit des modèles masculins, mais tous habillés, hein. Ben, habillés, avec un petit peigne.
Après la guerre 1939-45, certains artistes, dont mon homonyme Archambault, Louis de son
Oui.
prénom, contester l'enseignement académique en art. Est-ce à ce moment-là qu'il y a l'École des Beaux-Arts qui a été fondée?
L'École des Beaux-Arts est fondée en 1923 à Montréal, un peu après celle de Québec. Et ça a forcément un impact parce que la Art Association va diriger vers elle un grand contingent de personnes qui vont vouloir devenir artistes. Et l'impact premier, c'est certainement que à l'Art Association, les frais étaient, il y avait des frais en fait pour accéder à l'institution, alors que pour l'École des Beaux-Arts, c'était fondé par le gouvernement du Québec, c'était gratuit.
Et le premier nu académique a été acquis par le musée en 1922 et le premier nu moderne en 1932. Combien de dessins d'avant 1950 que le musée possède?
C'est une très bonne question, sauf que je pourrais pas clairement y répondre. J'ai pas de chiffres en tête. J'ai plutôt des noms d'artistes, un certain nombre de corpus pertinents. Ce qui serait en fait une réponse pertinente à votre question, c'est que bien qu'on représente le nu de toutes sortes de manières, avec des corpus en peinture, en sculpture, très significatifs, en dessin, si on oublie la vingtaine de dessins académiques dont je vous ai parlé, un certain nombre d'estampes, surtout des années 30, de membres de la communauté juive montréalaise et d'œuvres de Holygate, par exemple, l'essentiel des œuvres ont été acquises très, très récemment, en fait, même dans la dernière année, ce qui est en lien, justement, avec la volonté de présenter ce sujet. En fait, on a travaillé à enrichir le corpus pour s'assurer d'avoir une représentation pertinente du sujet qui était initié par les dessins académiques des débuts de l'école.
Et juste à côté de l'entrée, vous avez placé côte à côte un nu féminin de William Bremner, daté 1880-90, et un nu masculin 1904-1905 de Clarence Gagnon. Est-ce que c'est à cause des techniques des deux dessins qui sont différents?
Bon, la raison de cette association-là, c'est d'une part que Bremner est le professeur majeur pour l'Art Association. Il va être là pendant 35 ans et quitte sa retraite en 1921. Donc vraiment, alors que la modernité en art et pour le dessin apparaît. Et trouver un dessin de Bremner, c'est le seul dans notre collection. C'est une acquisition récente, c'est une perle en fait, parce que on était chanceux d'en trouver. On aurait très bien pu ne pas en trouver un. Puis c'est un dessin qu'il a réalisé à Paris. En fait, le lien entre les deux dessins, c'est que celui de Clarence Gagnon également a été réalisé à Paris. Et c'est de montrer d'emblée la formation académique qui était obligatoire pour les maîtres comme Harris ou Bremner qui introduisent ce type de formation inspirée, comme je l'ai dit tout à l'heure, des académies françaises. Et dans le cas de Clarence Gagnon, un artiste majeur que William Bremner, comme la plupart de ses étudiants qui ont été nombreux sur 35 ans, dont beaucoup de femmes, comme je l'ai souligné également, donc Clarence Gagnon qui est un artiste dont Bremner a facilité et auprès duquel il a souligné l'importance d'aller étudier à Paris. Et ce dessin en question, là en fait il y a un nu féminin pour Bremner et un nu masculin pour Clarence Gagnon, et c'est véritablement un nu dans ce cas-là, et ça n'aurait pas été réalisé dans le contexte canadien qui était beaucoup plus conservateur.
Et de l'artiste multidisciplinaire Marc-Aurel de Foy-Suzor-Côté, un nom au goût du jour, parce que nos jeunes portent deux prénoms et deux noms de famille, on voit deux pastels d'une femme endormie dans deux formats différents. Est-ce que vous savez pourquoi?
C'est très bien que vous parliez de ces pastels-là, parce que ce sont deux des œuvres les plus splendides de l'exposition. Suzor-Côté était reconnu comme pastelliste et... pour faire une distinction avec beaucoup des dessins présentés qui sont au départ où on a des dessins académiques réalisés dans le cadre d'un atelier de formation et les dessins qui nous présentent des esquisses en fait dans l'évolution du projet de différents projets d'artistes, ces œuvres-là de Suzor-Côté sont finies, abouties, ont été exposés dans le cadre d'expositions importantes, en particulier celle justement des Spring Exhibitions, les salons du printemps à la Art Association, et donc ont été appréciés par le public, vus par le public. Donc c'est un tout autre contexte, puisqu'ils n'étaient pas essentiellement pour le travail de l'artiste sans être vu, mais vraiment présenté au public. Et pour retourner sur votre question, de ce côté, les deux formats, voilà. En fait, on aurait pu avoir un peu plus même d'œuvres de d'autres formats avec les mêmes compositions, parce qu'on sait que Suzor Côté s'est inspiré d'une autre huile avec une composition un petit peu différente pour ces deux esquisses, pour ces deux pastels-là. Il a également réalisé une petite ébauche sur une pochade, en fait, à l'huile, très proche de la plus petite œuvre. Et en fait, ça démontre l'intérêt de l'artiste pour ce sujet spécifique. Les deux œuvres sont pas de la même année. Il y en a une qui est 1921, l'autre est 1924. Et il va les avoir exposées dans deux expositions différentes à Montréal.
Et est-ce que vous savez s'il pouvait vivre de son art ou s'il avait une fortune familiale?
Suzor Côté venait d'une famille aisée. Et c'est le cas de toute façon de plusieurs, pas de tous, mais de plusieurs des artistes, et en particulier les femmes qui avaient accès et qui pouvaient payer des cours pour se rendre à l'art, pour suivre leur formation à l'Art Association. Mais de toutes les manières, il est clair que Suzor Côté était capable de vivre de son art, puisque en plus d'être un très grand pastelliste, un très grand peintre, il était aussi un très grand sculpteur, ce qui est assez rare d'avoir toutes ces qualités réunies au sein d'une même personne. Et l'exposition, peut-être que c'était votre prochaine question et je la devance, mais l'exposition rassemble aussi une sélection significative de bronzes. On a un bronze de Suzor Côté de la même période et on connaît seulement deux bronzes avec pour sujet le nu chez Suzor Côté. On est très content de pouvoir en présenter un qui est également une acquisition récente.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
C'est John Lyman qui remporte la palme dans l'exposition avec une quinzaine de dessins, dont l'autoportrait avec modèle féminin. Quelle est son importance dans l'histoire de l'art au Québec?
Bon, John Lyman est une figure majeure de l'histoire de l'art. Si on retourne aux années 10, le moment, en fait, en 1913, il y a une exposition à la Spring Exhibition, au Salon du Printemps. Et son œuvre est tellement critiquée, alors qu'il revient justement de sa formation en Europe, où il s'imprègne de un peu des avant-gardes, dans ce cas-là, post-impressionniste. Et ça choque le contexte canadien. Et puis lui, comme il vient également d'une famille aisée, il peut se permettre de dire, bon, ben moi, si vous m'appréciez pas plus que ça, je m'en vais. Alors, il est quitté. Et puis, c'est après un certain temps qu'il revienne, au Canada, en fait, au début des années 30. Puis au début des années 30, ben là, il va écrire dans les journaux, sa critique sur la modernité va être très significative. Et il va être le fondateur de la Société d'art contemporain de Montréal. Alors, juste pour quelques éléments, vous voyez l'importance de l'individu. Et nous, on est très chanceux parce que récemment, on a réussi à acquérir un corpus parmi les plus significatifs de ses dessins, près de 200 dessins de l'artiste, au sein duquel il y avait beaucoup de nus, ce qui a aussi en partie justifié le projet de cette exposition-là. Ouais, et le nombre et la représentation de l'artiste au sein de l'exposition.
Alors oui, effectivement, on trouve quelques bronzes dans l'exposition, dont l'étoile tombée d'Alfred la Liberté, qui semble avoir été inspirée par Rodin, et Flapper de Henri Hébert. Ma question est en deux volets, où étaient coulés ces bronzes-là, et est-ce qu'il y avait une compétition entre les sculpteurs de l'époque?
Ici, au Canada, ça va prendre beaucoup de temps. C'est relativement récent qu'on peut réaliser des fontes de qualité pour les artistes. Alors, toutes les fontes de nos artistes majeurs, en fait, ceux qui concernent mon corpus, à partir de Louis-Philippe Hébert, par exemple, qui va être le premier Canadien à fondre dans le bronze, et qui est représenté également dans l'exposition, toutes ces fontes-là seront faites en Europe. Alors, ça peut être à Paris ou à Bruxelles, ou à New York, en fait, chez Roman Bronze à New York. J'ai pas en tête les lieux où les œuvres de l'exposition ont été fondues, mais vous avez la perspective générale. C'est vraiment les trois lieux principaux où les œuvres seront fondues. Évidemment, la Liberté et Hébert sont beaucoup plus proches de la France, ce qui fait que leurs œuvres seront et de la France et la Belgique. Donc pour Hébert, je crois que c'est les deux. Pour la Liberté, ça va être essentiellement la France. Donc c'est un des éléments significatifs de l'assurance de l'attribution d'un bronze qui est généralement fait en plusieurs exemplaires. C'est un des éléments pour s'assurer de l'attribution réelle à un artiste, parce qu'on sait que telle œuvre va avoir été fondue dans tel contexte, et des fois il y a des listes qui en témoignent. Pour la compétition, dans le cadre de l'exposition, il n'y a pas vraiment de compétiteurs majeurs, si on peut dire, puisque Louis-Philippe Hébert et Henri Hébert, c'est le père et le fils, alors ils vont plutôt s'entraider que le contraire. Puis ça dépend des époques aussi. C'est qu'en fait, bon, la liberté arrive plus tard, Suzor Côté un petit peu plus tard aussi. Les compétitions vont essentiellement être pour l'érection de bronze, de bronze dans des contextes commémoratifs, de monuments commémoratifs. Et ça, ben, il y en a à l'échelle du Canada. Puis nos artistes, en particulier Louis-Philippe Hébert, va parsemer les grandes villes canadiennes de ces splendides monuments. Et là, il y a de la concurrence avec d'autres. Ça peut être George Hill, qui figure pas dans l'exposition. Ça peut être beaucoup d'autres, et même des fois des Européens qui sont appelés à participer à des concours et qui pourront être retenus au détriment de Canadiens. Et très souvent, au Canada, on va critiquer le fait que ce soit des étrangers qui obtiennent ces commandes plutôt que nos sculpteurs.
Il y a deux œuvres atypiques d'Ernst Newman qui montrent un homme fort entouré d'autres hommes qui semblent l'admirer. Et l'autre œuvre, c'est une femme nue vue de dos qui regarde une toile à côté d'un artiste assis. Il y a là vraiment deux narrations tout à fait étonnantes. Qui était cet artiste au nom germanique?
C'est aussi une très bonne question, parce qu'en fait, dans l'exposition, ce qu'on a voulu, c'est que ce soit le plus diversifié possible, comme l'est la société montréalaise, sur une période aussi significative, 1899-50, comme on l'a mentionné. Et Ernst Neumann, comme Maureen Blatt, comme Louis Mulstock, sont des figures représentées dans l'exposition qui témoignent de l'importance de la communauté juive montréalaise à une époque très spécifique où le réalisme en peinture, en dessin, marque l'époque. Ça, c'est l'époque de la crise, hein, ces années 30, pour l'essentiel des œuvres qu'on expose. Et ce sont presque essentiellement les peintres ou dessinateurs juifs de la communauté montréalaise qui vont témoigner de cet aspect majeur d'une époque qui se démarque de cette façon-là en histoire de l'art. Et un réalisme qui, dans le cas de Neumann, est inspiré du réalisme américain.
Il y a aussi le signataire du Refus global, Pierre Gauvreau, qui semble avoir été, lui, influencé par Matisse, surtout en 1942, avec des dessins très linéaires. Est-ce que est-ce qu'il est allé à Paris ou comment peut-il être en contact avec les œuvres de Matisse ou de même Picasso, période classique?
Ben, vous avez très bien noté, ce sont des dessins qui sont influencés à la fois de Matisse et de Picasso. Et dans les années 40, hein, ce sont des figures tellement connues, tous les jeunes artistes les ont plus ou moins en tête. Mais dans le cas de Gauvreau, c'est comme pour beaucoup d'autres artistes montréalais de l'époque, c'est par les livres qui vont entrer en contact avec ces grands artistes. Et c'est de toute façon des dessins qu'il a réalisés dans le cadre de sa formation à l'École des Beaux-Arts et qui précèdent bien sûr ce qu'on connaît plutôt de lui, son travail automatiste.
Et le plus fantaisiste d'inspiration surréaliste à la Cocteau, c'est Louis Archambault. C'est vraiment surprenant parce qu'il est devenu un sculpteur plutôt sérieux par la suite. Alors, quelques mots sur son œuvre un peu fantaisiste, un peu beaucoup fantaisiste.
L'œuvre d'Archambault, votre homonyme, qu'on retrouve dans l'exposition, en fait, c'est à la clôture d'une certaine façon, parce que les œuvres d'esprit surréaliste qu'on a de lui, et puis on a un corpus des plus significatifs, on a des centaines de dessins de lui, on en a sélectionné trois qui sont magnifiques. Ces dessins-là clôturent le projet d'une certaine façon, puisqu'on s'arrête en 1950, et on peut présumer que la manière dont les femmes sont esquissés et représentés, ben, est-ce vraiment dans l'atelier? Est-ce que ça sort tout simplement de l'imagination, de l'esprit de l'artiste? On pourra jamais le déterminer. Mais les deux sont possibles. Mais de toute façon, comme je vous le dis, ça clôture l'exposition. Et par la suite, bien évidemment, le modèle dans l'atelier, la pertinence qu'on y a trouvée depuis la période académique jusqu'à sa transformation dans l'atelier de l'artiste à la période moderne va être, remise en question en grande partie par la non-figuration. Mais il y a dans l'exposition, et peut-être que c'était une autre de vos questions, mais il y a seulement une œuvre contemporaine dans l'exposition, et vous voulez y revenir, alors je vous laisse poser la question.
Oui, je présume que vous parlez de, vous mentionnez l'œuvre la plus récente datée 1992, qui est une photographie d'un couple âgé nu de Donegan Cumming. Il y a, je crois, une anecdote à propos de cette image-là.
En fait, c'est pas anecdotique, c'est même majeur, parce que toute l'exposition concerne le modèle dans l'atelier par le dessin, plus essentiellement. Il y a quelques pochades également, et il y a des bronzes, mais il n'y a aucune photographie. On sait très bien que la photographie, dès ses débuts, a servi comme support important pour le modèle vivant. On en a retracé dans les fonds d'artistes, de la croix, etc. Et pour nous, ce qui apparaissait important, c'était quand même... avec l'introduction d'une œuvre contemporaine, de marquer une différence de médium. Et c'est par la photographie qu'on a voulu le faire. Et cette photographie-là était introduite comme seule œuvre contemporaine pour être capable de, dans un contexte où il y a toutes sortes de critiques sur la représentation de la femme, bon, on va nous dire encore un modèle de nu féminin. Il y a aussi des modèles de nu masculin, comme je l'ai dit dans l'exposition. Il y a par ailleurs des femmes artistes dans l'exposition qui nous montrent des nus très modernes, qu'elles ont affirmées de manière moderne. Mais cette photographie-là, elle est là, la seule, avec un couple nu, comme vous l'avez souligné, et qui permet, après Archambault, par exemple, ultimement, de témoigner de l'universalité de la représentation du corps nu sans tabou, puisque là, vous avez un couple âgé. Alors, il est question d'empêcher le tabou face au sexe, de le faire face à la vieillesse, de le faire face à la sexualité, parce qu'il y a la possibilité d'y voir de relations troubles, en fait, avec un décor vraiment en fin de vie, et puis effectivement ultimement de mettre en scène le tabou de la mort, parce que la représentation, la femme qui est représentée dans cette œuvre, qui s'appelait Nettie, on la connaît. Le choix de Nettie par Donegan Cumming est assez éloquent, puisque il va travailler avec elle une dizaine d'années. Puis la photographie que nous, on a sélectionnée, elle est réalisée un an à peine avant le décès de son modèle.
Alors, j'accueillais le conservateur de l'art québécois et canadien d'avant 1945 au Musée des Beaux-Arts de Montréal, M. Jacques Desrochers. Et l'exposition Le modèle dans l'atelier se poursuit jusqu'au 26 mai, à voir de très près, mais sans toucher.
Merci.